Europe 1 Culture Média.
9h-11h, Pascal Clark.
Bonjour, ou bien rebonjour. Elle appartient au club très fermé des romanciers de ce pays qui vivent de leurs plumes. Elle enchaîne les best-sellers et continue à creuser les différentes formes d'écriture. Quelques mois après la sortie de son 19e roman Bed Bug, son confinement a produit un roman graphique qui sortira en novembre. Catherine Pancol est l'invitée de Culture Média ce matin. Du côté des indispensables, Clément Le Saffre arrive tout à l'heure avec son univers de comic book, super-héros et super-héroïnes, et une nouvelle collection signée Marvel. Quel est le roman dont vous allez découvrir la première page aujourd'hui? Celui de Kieran Millhood Hargrave, Les Graciers, à paraître chez Robert Laffont. Culture Média d'été en direct pour une heure encore. Où que vous soyez, respirez à fond, le journal de la culture est annoncé. La preuve. Bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et votre t-shirt smile. Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, Zac Efron, bientôt papa, un phénomène nigérian, le retour d'un prince, une femme candidate, des gros bras multimillionnaires, Jude Law sur une île et un coup de cœur musical.
D'abord, nous sommes avec la star hollywoodienne Zac Efron qui va jouer dans un remake.
Oui, ou plutôt un remake de remake et pas n'importe lequel, le remake de Trois hommes et un bébé, un film qui était déjà le remake du film Trois hommes et un couffin de Colin Serrault. Est-ce que vous suivez, Pascal ?
Bah oui, les bébés font des petits.
Voilà, exactement. Trois hommes et un bébé était sorti en 1987. Ça avait été un véritable carton au box-office. On se souvient notamment qu'un des héros du film était incarné par Tom Selleck, alias Magnum. C'était peut-être là une des clés du succès. Et en 2020, Disney a donc eu envie de remettre cette histoire au goût du jour. Zac Efron devrait donc incarner un de ces trois célibataires endurcis qui se retrouvent malgré eux confrontés aux joies et aux difficultés de la paternité. Et c'est un peu un retour au bercail pour Zac Efron, qui a connu une gloire internationale dans les années 2000 avec la saga High School Musical. Alors on ne sait pas encore qui réalisera ce remake de remake, mais une chose est sûre, le film ne sortira pas en salle, il sera diffusé sur la plateforme Disney Plus directement.
On continue en musique avec la sortie d'un nouvel album du chanteur Burna Boy. On le connaît,
Burna Boy, c'est le phénomène musical du moment. Vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé le concert planétaire organisé par Lady Gaga pendant le confinement. Il faisait partie de ce concert. C'est un rappeur, le pape de l'afrofusion. Il vient de participer au remix du tube de l'été Jerusalem. Il a aussi travaillé avec Beyoncé, Damien Marley, la diva béninoise Angélique Kidjo. Rien que ça, c'est quand même du lourd. Et mais vendredi, c'est surtout avec un quatrième album que Burna Boy revient. Il s'intitulera Twice as Tall. Et parmi les 15 titres annoncés, on écoutera particulièrement deux chansons. Une qu'il interprétera avec la légende Youssou N'Dour, l'autre avec le leader de Coldplay, Chris Martin. Il faut dire que Burna Boy est un habitué des duos. La preuve, avec cette chanson, Oasis, c'est une collaboration avec le chanteur Sam Smith qui est sorti il y a quelques jours. Écoutez.
Un duo Burna Boy et Sam Smith, et non pas Stan Smith.
Non, Sam Smith.
Si j'ai bien suivi. Alors aux États-Unis, une sitcom culte pourrait faire son retour de manière totalement inattendue.
Si vous avez passé les années 90 affalé dans votre canapé ou si vous êtes fan de Will Smith, vous avez probablement reconnu ce générique. C'était celui du Prince de Bel-Air, diffusé sur Antenne 2 en France à l'époque. L'histoire d'un adolescent incarné par Will Smith, un adolescent des quartiers pauvres de Philadelphie qui se retrouvait logé chez son oncle et sa tante dans le très chic quartier de Bel-Air à Los Angeles. Et au fil du temps, cette série elle est devenue culte au point qu'un admirateur nommé Morgan Cooper a décidé il y a quelques mois de réaliser une fausse bande-annonce diffusée sur YouTube. C'est un Prince de Bel-Air en version actuelle. Écoutez un extrait.
Alors Will, que faites-vous à Bel-Air ?
Je me trimballe avec un flingue.
Comment on se connaît déjà ?
Tais-toi, Captain.
Alors ici, fini les couleurs pop et la rigolade. Cette fois-ci, l'ambiance est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre. Et cette relecture de la série, elle a enthousiasmé le Prince de Bel-Air en personne, Will Smith. Après avoir pris contact avec le cinéaste internaute, l'acteur est désormais en pourparlers avec différentes plateformes pour produire un reboot de la série. Et selon le magazine Hollywood Reporter, Netflix, Peacock et HBO Max sont sur les rangs. On attend désormais de savoir qui décrochera le gros lot.
Dans un tout autre style, Damien, la réalisatrice Haïfa Al-Mansour signe un film féministe sur une candidate aux élections municipales.
Oui, un film qui s'intitule The Perfect Candidate et qui sort aujourd'hui au cinéma. Alors le pitch, en Arabie Saoudite, une jeune femme décide de se présenter aux élections de la ville où elle habite et de mener campagne contre vents et marées.
Les élections sont le seul moyen de faire entendre nos voix.
Tu peux remplir une salle de 200 personnes
Et bien sûr, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et de faire bouger les mentalités.
Alors c'est assez drôle, ça dénonce frontalement un sexisme encore à l'œuvre dans ce pays, mais c'est aussi une manière de tordre les clichés et de faire entendre des voix de femmes fortes et modernes. L'actrice Mila Alzrahani est assez épatante, on voit que les femmes en Arabie Saoudite ont encore du chemin à faire pour accéder à une parfaite égalité.
Oui, encore un petit peu,
ouais. Mais le vent est peut-être en train de tourner, en tout cas c'est ce que nous raconte cette réalisatrice Haifa Al-Mansour. Elle apporte un nouveau point de vue sur la condition des femmes au Moyen-Orient. Donc bref, c'est un film à voir, il sort aujourd'hui en salle.
À la télévision, Jude Law sera bientôt à l'affiche d'une nouvelle mini-série.
Et cette série, elle s'appelle The Third Day. Elle sera diffusée le 14 septembre prochain sur la chaîne américaine HBO. Et 24 heures plus tard en France, ce sera sur OCS. La série, elle s'annonce très intrigante avec un scénario en diptyque qui se déroule sur une île mystérieuse au large de la côte britannique.
Je crois que j'hallucine.
Tu es venu ici car tu avais besoin de croire. Mais ta peine réclame le chaos.
Au casting également, Naomi Harris, qui avait été nommée aux Oscars pour son rôle dans Moonlight, et Emily Watson, l'inoubliable interprète du film Breaking the Waves de Lars von Trier. Alors, The Thursday sera composé de 6 épisodes. Une bande-annonce vient d'être dévoilée sur Internet. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Ça a l'air assez barré, mais c'est assez excitant.
Côté business, Hollywood aime les gros bras, ou en tout cas les rémunère bien.
Oui, le magazine Forbes vient de dévoiler la liste des acteurs les mieux payés au monde et c'est une armée de bodybuildés qui arrive en tête. Dwayne Johnson alias The Rock caracole en tête avec plus de 87 millions de dollars engrangés dans les 12 derniers mois. Dans le top 10 également, Ryan Reynolds, Vin Diesel, Mark Wahlberg, Ben Affleck, Will Smith ou encore Jackie Chan. Et à noter, sur les 10 acteurs les mieux payés au monde, 6 ont été à l'affiche d'une production Netflix dans l'année qui vient de s'écouler. Donc la plateforme est en train de devenir le bon plan pour les stars d'Hollywood. Ces 10 acteurs ont cumulé ensemble plus de 545 millions de dollars en salaire cette année.
On termine, Damien, avec un peu de musique électropop.
Oui, avec le groupe parisien Isaac Delusion qui vient de participer à une vidéo pour la chaîne YouTube Colors qui propose des captations musicales de très haute volée. Ils en ont profité pour faire un duo inédit avec la chanteuse Silly Boy Blue. Le titre s'intitule Make It. Alors on va clore ce journal sur ces quelques notes. Vous allez voir, c'est très beau.
Isaac Delusion, pour clôturer votre journal de la culture. Merci Damien Cabrespine.
Merci.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Et puis le confinement est arrivé, il s'annonçait son programme établi, qui s'attendait à ça franchement, un temps pas particulièrement studieux. La romancière avait sorti son nouveau livre Bed Bug 5 mois plus tôt. On n'écrit pas comme ça en appuyant sur un bouton, faut recharger les accus et le vécu. Mais un post Instagram est venu changer la donne. Parce qu'elle aime raconter des histoires, Catherine Pancol a parlé d'Eugène, sa vieille pote surnommée Eugène, avec qui elle avait entrepris un voyage au Mexique quand elle avait 20 ans. Eugène sortira en roman graphique en novembre chez Albin Michel, sacré confinement. Bonjour Catherine Pancol.
Bonjour Pascal.
Toujours se méfier des histoires, elles en font faire de ces choses, non ?
Oui, je n'étais pas partie du tout pour travailler. J'étais partie avec un énorme panier de livres à lire. J'avais fait ma pile, j'avais tout préparé. Je savais par lequel j'allais commencer et tout ça. J'étais très contente. Et puis, un soir, sur le fil Instagram, arrive un message d'une très 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 bonne amie, mais que je ne vois pas très souvent parce qu'elle a la bougeotte. Qu'elle voyage tout le temps, et qui, sur le même ton, quand elle avait 20 ans, c'est surtout ça que j'ai adoré, se mettait en colère contre les gens, parce qu'elle est tout le temps en colère, Eugène, parce qu'elle trouvait que, le confinement, c'était formidable, que les gens allaient peut-être regarder le monde, peut-être profiter de la beauté du monde, et arrêter d'être obsédée par leur petit nombril, et elle finissait par ouvrir les yeux, bande d'abrutis.
Et ça suffit, ça suffit.
Et ça suffit.
Voilà, c'est quelque chose qui dépasse. Ouais. Et là, c'est plus fort que vous. Il faut que vous tiriez, il faut que vous écriviez. C'est comme ça que ça se passe.
Mais oui, parce que tout d'un coup, ça m'a fait une explosion de bonheur. Je sais pas pourquoi j'étais contente d'avoir de ces nouvelles. Parce que j'en ai pas souvent, même si on se voit de temps en temps, mais on se voit toujours rapidement. Elle est toujours en déplacement, elle est toujours en train de bouger. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc j'essaie de l'attraper comme ça. Et là. Tout d'un coup, puis alors cette espèce de raccord avec ce qu'on avait été à 20 ans, et puis toutes les bêtises qu'on a faites, tous les voyages qu'on a fait ensemble, et puis cette espèce de mot de passe entre nous. Alors c'est vrai qu'on l'a utilisé beaucoup à un moment, puis moi après, mais là on devait partir il y a 4 ans, on devait partir en reportage toutes les deux en Amérique sur la trace de Patty Hearst, Pendant les élections, juste avant l'élection de Trump.
Patty Hearst, la fille du magnat qui avait été enlevée, c'est ça ?
Qui avait été enlevée par une bande armée révolutionnaire.
Syndrome de Stockholm.
Voilà. Et on voulait la retrouver et on voulait en même temps raconter cette Amérique, ce qui a été devenu au moment des élections. Et je lui avais dit, on va ressortir ce prénom d'Eugène et on va faire Eugène et Catherine sur la route.
Donc ça commence par un post sur Instagram et puis ça enchaîne, post après post.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il y a l'engouement en face ? Parce que quoi ? Pourquoi vous retrouvez ?
Au départ, d'abord, on était confinés, donc je fonctionnais toute seule. Je fonctionnais toute seule sur mon enthousiasme. Vous voyez, j'en ai parlé à Anne Boudard, qui est une dessinatrice que j'aime beaucoup, une jeune dessinatrice, avec laquelle j'avais travaillé déjà pour Bed Bug, qui m'avait fait un petit livret en racontant l'histoire de Bed Bug. Un jour, j'ai Anne au téléphone et je lui raconte. Elle m'envoie un petit dessin où on me voit sur le canapé avec le chien en train de bouquiner, parce que j'ai quand même eu le temps de commencer un livre avant d'écrire Eugène. Et Anne, elle m'envoie un dessin et je lui raconte. Et au fur et à mesure, je racontais à Anne, je racontais à Eugène, parce qu'on se ravivait nos souvenirs comme ça. Et puis petit à petit, c'est devenu ce qu'ils appellent maintenant un concept novel.
Un concept novel, ce qu'on pourrait traduire par... Qu'on traduit pas.
On traduit pas, enfin on peut traduire pas beaucoup de choses, mais enfin c'est un roman avec des dessins.
Qui sortira donc en novembre chez Albin Michel. Instagram comme support, ça demande forcément à écrire différemment. D'abord, ce sont des petits éclats, c'est forcément des petits bouts d'histoire. Ça change
ça a
tout.
Beaucoup changé. Ça a changé non seulement la forme, ça faisait comme des petits modules de 3 minutes, vous voyez, et ça a changé le style aussi.
Pourquoi ça change le style ?
Ça change le style parce que quand vous écrivez un roman, vous rentrez vraiment beaucoup plus profondément dans les personnages, la psychologie des personnages. Là, il faut donner des indices, il faut donner des sons. C'est presque une bande son, une bande visuelle. Et il faut que ça aille vite. Ça se tic-tac, tic-tic, tic-tic, tic. C'est beaucoup plus sonore qu'un roman. Un roman, il y a un son. Un roman, c'est un rythme. Il y a un son, il faut s'installer dans le son, il faut... C'est plus profond, tandis que sur Insta, et on est obligé d'entrechoquer les mots comme des vers. Vous voyez,
oui, mais ça, vous l'avez défini, ou alors c'est la plume qui, par une espèce de magie, s'adapte quasiment automatiquement.
C'est instinctif, c'est pas intellectuel du tout. Mm-hmm. On n'a pas une place énorme. Il faut aller vite, il faut raconter, et puis il y a toujours ce truc qu'il faut finir sur un hameçon qui tient les gens en haleine pour qu'ils puissent revenir.
Oui, c'est le propre de la série. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça votre métier. Ça fait un moment que ça dure, Catherine Pancol, raconter des histoires, qu'est-ce que ça demande ? Observation ou imagination ?
Les deux. J'observe énormément, j'essaie toujours de comprendre. Je suis passionnée par l'humain. Les hommes sont des insectes que je regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. Je peux perdre totalement le sens de l'humour quand je suis en état d'observation. Et puis après, à partir de ces éléments-là, c'est vrai que ça demande de l'imagination parce qu'on invente des histoires.
Oui, c'est ça, parce que quand on dit littéralement raconter des histoires, ça veut dire mentir, me raconte pas d'histoire.
Oui.
Donc c'est mentir ou c'est s'approcher de la vérité ?
C'est les deux aussi.
Ah, oui. Mentir sincèrement, ça irait comme oxymore ?
C'est-à-dire qu'on part du réel. On parle de choses tout à fait...
Allez-y, buvez un coup. Pendant ce temps-là, je vais rappeler que... Ah bah oui, c'est ça la vie.
Oui,
hein,
c'est
parfois,
ça le direct.
C'est ça le direct à la radio. C'est ça qui est bien. Ça y est ?
Oui, ça y est. Donc on parle du réel. Donc on parle de faits qui sont totalement vérifiables, véridiques. Et puis c'est surtout vrai pour les romans, ça. Et après, forcément, on crée des personnages. Et après, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Les personnages, ils deviennent indépendants et ils démarrent leur histoire. Mm-hmm. Alors Eugène, c'est très autobiographique quand même.
Oui, et du coup, vous revenez à cette veine-là qui était passée un petit peu.
Oui, qui était complètement passée.
Quoique,
on fait toujours aussi avec soi. On héberge tous les personnages d'un livre à l'intérieur de soi.
Est-ce que, au bout d'un moment, il faut se méfier de son propre savoir-faire quand on écrit ? Parce qu'il y a un moment où on sait davantage de choses, où on a une technique. Faut-il s'en méfier ?
Mais je crois que c'est vrai pour tous les métiers, vous savez.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah mince !
Oui, oui. Parce que tout le monde a des tics, tout le monde a des manières de faire. Ça ressemble un peu au style, vous savez. On reconnaissait une robe Chanel, on reconnaît une musique Billie Holiday, on la reconnaît tout de suite, on reconnaît un immeuble d'un architecte et un style. Alors après, il faut agrandir à chaque fois le carcan du style, et on arrive à le transformer. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde.
Catherine Pancollé dans Culture Média ce matin, elle revient dans 2 minutes et du coup moi aussi, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
La réalisatrice Catherine Pancollé, la réalisatrice, ah bah voilà.
L'aviatrice,
la cuisinière, hein, pourquoi pas. Ah bah je suis partie bille en tête, hein. Bah pourquoi pas, bah, vous pourrez très bien être réalisatrice.
J'adorerais être aviatrice.
Peut-être que j'ai une vision, là vous ne le savez pas encore. Il s'agit bien sûr de la romancière Catherine Pancollé qui est dans Culture Média ce matin. Vous pouvez bien rire, mais vous faites partie de ceux et de celles qui vendent énormément de livres. Est-ce que ça vous étonne ?
C'est pour ça que je ris, d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que ça vous étonne encore à chaque fois quand vos romans apparaissent en haut des classements ? C'était encore le cas pour votre dernière en date, Bed Bug.
Mais j'ai toujours étonnée, moi. Je ne suis pas du tout une fille blasée, vous savez.
Comment faites-vous pour ne pas être blasée ?
Mais parce que je pense que j'ai une vie normale, hein, avec des gens normaux, et que je suis toujours étonnée. Je suis vraiment étonnée, hein, c'est pas...
Et puis, ça m'étonnerait quand même que vous ayez une vie normale.
Oh, si, j'ai une vie extrêmement normale.
Ah ouais ?
Ah ouais.
C'est quoi
ouais.
Une vie normale ?
Vie normale, c'est-à-dire que, par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'ai sorti mon chien pendant une demi-heure, j'ai ramassé sa crotte, je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire, je lui ai expliqué que je partais. Et puis voilà, j'ai une voiture, je me gare, je mets mon ticket, enfin, j'ai pas de. Vous voyez, je vais faire les courses, je sais où je vais acheter la lessive, bio évidemment, le pain avec des céréales dedans. Enfin, j'ai une vie normale. J'ai pas une vie...
Parce que ça isole, le succès.
Ça isole. Mais moi, j'ai fait très attention à ça tout de suite. Tout de suite, j'ai
comment,
fait très
alors
attention. Ben, après le succès de mon premier livre, je suis partie aux États-Unis, à New York.
Le premier, c'était Moi d'abord.
Moi d'abord. Et je me suis dit que si je restais à Paris, j'allais devenir un petit phénomène parisien et j'avais aucune envie.
Parce que ça, vous l'avez senti tout de suite.
Tout de suite.
Mais vous auriez pu tomber dans le piège du succès. On a le droit au début, pourquoi pas.
Ah, mais peut-être, mais j'avais pas envie, quoi. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, mais j'avais pas envie du tout. Je me suis très vite rendu compte de ça. Le mois d'abord, ça a été une explosion. C'était 300 000 exemplaires, alors que j'étais inconnue, j'étais une petite journaliste. J'avais fait ça pour rire, vraiment, et pour faire plaisir à Robert Laffont, qui m'avait demandé d'écrire un roman. Mais moi, à l'époque, j'étais sur un reportage. Je devais partir en ce qui était à l'époque URSS, avec Raymond Depardon, pour faire un livre sur les femmes soviétiques. Vous voyez, j'étais loin de Moi d'abord. Pendant qu'il travaillait pour avoir les visas, j'ai écrit Moi d'abord. Et puis ça a été un succès. Et puis d'un coup, on me voulait comme réalisatrice, comme actrice, comme chanteuse, comme on voulait acheter Moi d'abord pour faire un parfum. Enfin, il y a eu un truc.
Toutes les portes se sont ouvertes.
Voilà. Et c'était trop. J'ai eu le vertige. Et surtout, j'ai eu cette intuition très forte que je ne voulais pas devenir un objet qu'on allait commercialiser. Et donc, je suis partie à New York. Et je pense que ça a été ma première bonne réaction. Mmh. Et après, j'ai fait attention tout le temps.
Le succès a toujours été là. Est-ce qu'il est forcément source de malentendus ?
Oui, ça c'est évident.
Pourquoi ?
C'est évident parce que, mais c'est surtout évident en France, je pense que succès en France veut dire facile, consommable, pas très respectable. Il y a une très grande méfiance en France sur quand ça marche.
Et ça c'est vrai dans tous les domaines ou particulièrement en littérature ?
Ben, c'est vrai surtout en littérature. Surtout en littérature. En littérature, il faut être très, très sérieux, très intellectuel. Moi, j'ai plutôt la manière d'écrire anglo-saxonne. Je pars des faits, je construis les personnages, je pars de détails. Regardez Simenon, il n'a pas été considéré pendant très, très, très longtemps. Il faut mourir. Je pense que peut-être après ma mort, ça ira mieux.
Ouais, mais ça vous peine tout ça
ou... Ça m'a fait beaucoup de peine au début. Au début, ça m'a fait de la peine. Ouais. Et puis, surtout, après le succès de Moi d'abord, je m'en suis vraiment pris plein la figure. Mais après, on comprend. Et puis, j'ai eu toute cette période où j'ai quand même beaucoup vécu à New York. Donc, j'étais loin de tout ça. Et quand je suis rentrée des États-Unis, ben, je m'étais habituée, quoi. Et maintenant, j'ai un peu un statut à part. Les gens ne savent pas très bien comment me prendre. Et ça me va très bien.
Et comment faut-il vous prendre ?
Comme vous me prenez.
Est-ce que, Catherine Pancollé, votre style plutôt enjouée ne vous joue pas des tours. Je prends l'exemple de Bedbug. Certes, c'est l'histoire de Rose, hein, qui est une biologiste qui travaille dans un laboratoire, qui fait des recherches, mais qui cherche aussi l'amour, comme souvent. Or, on découvre dans le livre, à la fin du livre, que de génération en génération, les femmes de sa famille ont été victimes de violences sexuelles. On ne vous a pas beaucoup interrogé là-dessus à la sortie du roman. Pourquoi ?
Et pourtant, je l'ai dit dans ce studio.
Ah ben, je vais le rappeler. Voilà, ouais. C'était chez Philippe Vandel, dans Culture Média. Mmh. Et vous avez dit, j'ai été violée. Mmh. Et il n'y a pas eu beaucoup de réactions.
Il n'y a aucune réaction.
Pourquoi ?
Ah ben, c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes se taisent, vous savez. C'est très étrange. Moi, j'ai été violée à l'âge de 12 ans. J'ai été violée après. Alors, il y avait aussi l'époque qui était qu'on n'en parlait pas. C'est vrai qu'on n'en parlait pas. Et si on en parlait, on ne vous croyait pas.
Ça, c'était à l'époque.
Oui, mais je me demande si ce n'est pas encore un peu... on écoute certaines personnes et pas d'autres. Vous voyez, je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de cas où on n'entend pas. Parce que c'est très gênant d'avoir quelqu'un qui vous dit ça. C'est très, très gênant. Donc, donc finalement, vous faites votre propre... réconciliation avec vous-même, c'est-à-dire que vous dites je vais vivre malgré ça, je vais grandir malgré ça, je vais et vous développez, c'est ce que vous disiez, une sorte d'humour, d'humour de on va vivre quand même quoi. Vous voyez, c'est ça, il y a l'humour et c'est là où l'humour intervient. Je n'en suis pas morte, ça m'a construite quelque part, ça m'a donné une force finalement énorme. Et quelquefois, je me dis, ben, vous voyez, je m'en suis sortie. Alors, et l'humour, il intervient là. Je pense que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je serais beaucoup moins drôle, bizarrement, parce que je relativise beaucoup, quoi.
Et puis c'est une protection.
Et puis c'est une protection et c'est une manière de parler qu'à des gens à qui je peux faire confiance. Ça, c'est un pas de côté.
On va continuer à parler de ça ou d'autre chose, on va bien voir. C'est la pub là, je m'adresse à Valentine, c'est la pub ? Ouais, je croyais qu'il y avait un disque, mais non. Allez, la pub, puisqu'il le faut, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Catherine Pancol sortira en novembre chez Albin Michel un roman graphique, Eugène, une virée assez rocambolesque au Mexique avec des dessins signés Anne Boudard. J'oublie pas que vous avez commencé comme journaliste. Vous l'êtes toujours, c'est pour la vie, ces choses-là ?
Je crois que je suis dans l'esprit et dans l'âme. Hein.
Ouais.
Mais j'ai commencé comme prof de français latin.
Ah oui, avant ça. Ouais.
Mais oui, je pense que c'est une manière d'observer aussi.
Il y a des liens entre toutes ces activités, finalement, vous diriez quoi ?
Il y avait un lien très simple, fait que je gagne ma vie. Hein.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr.
Ouais. J'avais pas de... Je veux dire, mes parents étaient par Mons et par Vaux, j'avais pas d'argent, j'étais livrée à moi-même, fait que je gagne ma vie. J'ai fait plein de petits boulots, mais ça m'a toujours servi. Toujours servi. Les petits boulots qu'on fait, c'est formidable.
Comme quoi ?
Ben, à un moment, je conduisais un van dans un entrepôt pour placer des barils de lessive. Et je m'en suis servie pour les yeux jaunes des crocodiles, le métier de Marcel, qui a un entrepôt qui s'appelle Casamia. et je sais comment fonctionne un entrepôt, je sais comment arrivent les marchandises. Alors je faisais 6 mois, puis après j'allais vendre la lessive ailleurs, et puis voilà, puis je faisais mes études en même temps. Mais tout ça, ça m'a toujours servi.
Mmh. Dans la première partie de cette émission, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ça, on parlait d'une enquête qui est parue sur le site Vice, de tous les journalistes qui quittent ce métier parce que trop de précarité, trop de non-sens, d'absence de sens. Vous y croyez encore, vous, à ce métier de journaliste ? Non, du tout ?
Non, alors si, j'y crois quand je lis Society, l'enquête sur Dupont de Ligonnès. Alors là, j'ai formé. Ça, c'est vraiment le journalisme que j'aime. Ou le Truman Capote avec le récit, qui est à la fois un roman et un récit et un fait divers. J'y crois, Norman Mailer, Le Chant du Bourreau, j'y crois. Là, j'y crois vraiment.
Donc, dans les formats longs et par écrit,
voilà.
Si on prend ces exemples.
Society, c'est très, très long. Du reste, regardez, on ne le trouve plus. Quoi.
Ah, bah oui, non, c'est
vraiment
le coup d'été.
C'est le tube, exactement, le tube de l'été. Alors là, j'y crois, mais ça demande. C'est ce que je raconte. Un moment dans Eugène. Alors là aussi, avec une manière très drôle, où je dis j'ai arrêté ce métier quand on allait interviewer quelqu'un, on avait un quart d'heure, 20 minutes entre deux portes. On peut rien piquer de l'âme de la personne, de ses mensonges. Et avant, quand on allait interviewer n'importe qui, un réalisateur, un écrivain, un chanteur, on passait la journée avec lui. Donc même s'il essayait de vous mentir au début, son propos tenait pour peu qu'il soit intelligent. Moi, il y a des interviews que j'ai des gens que j'ai refusé, sur lesquels j'ai refusé d'écrire parce qu'à la fin de la journée, tout d'un coup, le vrai ressortait. Et il était odieux, le vrai. Et je rentrais au journal, j'ai dit, je ne peux pas écrire sur ce mec.
On va se fâcher.
C'est pas tellement ça, c'est que j'aurais dû... Vous voyez, c'était son problème qui soit horrible. Je n'avais pas envie de salir quelqu'un publiquement. Mais on pouvait faire ça à l'époque. On pouvait dire, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Et on passait du temps, donc on chopait toujours des trucs. Et donc, c'est ce qu'a fait Society avec ce fait divers. Parce que c'était... à l'époque, on avait le temps, on avait l'argent. Et on était seul face à quelqu'un quand on interviewait, ou on vous lâchait dans une situation. Moi, j'ai fait beaucoup de procès, j'ai fait aussi. Moi, je travaillais pour Paris Match, donc on allait sur les lieux quand il y avait eu des attentats, quand il y avait des mini-révolutions. Et ils envoyaient. Match était bien pour ça, ils envoyaient tout le monde, ils envoyaient des filles, des garçons, et on partait avec un photographe. Donc, et on chopait des trucs. Et on avait le temps, on pouvait rester 10 jours en Inde, on pouvait. Maintenant, c'est pas possible, vous partez et vous devez déjà revenir.
Si vous aviez du temps, si vous aviez un peu de moyens, vous verriez à nouveau partir sur une grande enquête pour un journal, pour un magazine, ça pourrait vous motiver ?
Oui, vraiment, vraiment.
Et sur quel terrain plutôt ? Le fait divers ?
J'adore les faits divers. J'adore les faits divers. Ouais, c'est formidable parce que c'est comme rentrer dans un roman, sauf que c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Vous avez des vrais personnages. Donc, pourquoi il a agi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Toujours trouver la fêlure, la faille qui fait que la personne, tout d'un coup, va devenir quelqu'un d'autre, va devenir violent, va devenir bon. C'est de la fiction en réel.
Vous la connaissez, vous l'imaginez, votre suite littéraire à vous, la prochaine histoire que vous allez triturer
Non.
Il y a quelques indices qui commencent à vous arriver ou c'est beaucoup trop tôt ?
C'est trop tôt parce que Eugène, on est en train de finaliser là, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur la maquette, je suis en plein dedans. Et après, Stevenson, il disait qu'après un livre, le réservoir était à vide et qu'il fallait attendre que le réservoir se remplisse. Et
donc, se remplisse de quoi ? De vie ?
De vie, de détails, parce qu'on peut démarrer sur un détail, un livre, on peut démarrer sur un son, on peut démarrer sur une réplique de film, on peut démarrer sur une scène qu'on voit dans la rue. Donc c'est ça, et c'est ce qui met le feu au réservoir, en fait.
Il peut y avoir des fausses pistes ?
Il y a des fausses pistes.
C'est-à-dire que vous pensez la voir, ce début,
voilà,
et
vous vous épuisez en route.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
On met à la poubelle.
Mais c'est souvent
Non, ça m'est arrivé une fois, mais je m'étais déjà bien engagée. J'avais écrit 50 pages. J'étais pas sûre de moi. Je suis allée voir mon éditeur qui était Jean-Marc Roberts. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, dis-moi franchement. Et Jean-Marc, pour ça, a été génial. Il m'a dit, non, tu y es pas. T'as pas le son, tu y es pas. Et on a fait poubelle. Et je l'avais fait pour mon premier roman, moi d'abord. J'étais pas sûre de moi. J'étais pareil. Parce qu'on ne sait pas, c'est ténu, vous savez, vous partez sur une phrase, quelquefois vous partez, et cette phrase va vous donner le « là » d'un livre qui peut faire 600 pages, 300 pages, donc il faut tenir la note tout le temps.
Vous en avez terminé, croyez-vous, des trilogies ? Est-ce que vous allez... Ou ça, on ne choisit pas.
Je crois que je ne choisis pas du tout. Je ne choisis pas. Regardez, Eugène, j'étais partie vraiment avec mon panier de livres bien rangé. Je me disais, bon, je vais faire ça. Et puis voilà, quelque chose d'étrange. Il faut saisir le truc quand il passe, c'est ça. C'est comme dans la vie, les rencontres, il faut attraper le truc quand il passe.
La pire des choses, c'est de laisser passer les trains.
Exactement.
Catherine Pancol. Et dans Culture Média, ce matin, on va arriver aux indispensables, ces recommandations, cette façon de faire passer. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire tourner. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et les indispensables de Culture Média. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Clément, quand vous ne jouez pas aux jeux vidéo pour nous, ce qui vous prend quand même beaucoup de temps, faut bien l'avouer, vous lisez des comics, les BD de super-héros, un univers à la fois familier et complexe que vous nous faites découvrir, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment le mot découvrir, régulièrement sur Europe 1.
Bah oui, c'est un monde familier parce qu'il est rempli de figures qu'on connaît tous dans notre imaginaire collectif, hein, Batman, Spider-Man, oui, Superman, Hulk, c'est quand même des noms qui parlent à tout le monde. On a tous grandi un peu avec, chacun à son époque. Alors il y a eu les comics à une époque, puis les films. Moi j'ai plutôt grandi avec les films, puisque ces héros ont été multi-adaptés au cinéma et à la télé depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Et en même temps, ces adaptations ne sont, je l'ai découvert, que la partie immergée de l'iceberg. Elles offrent des versions simplifiées des super-héros, accessibles à tout le monde, et tant mieux. Parce que oui, le monde des comics est parfois très compliqué à appréhender. Si vous avez aimé par exemple les films des Avengers, les plus populaires, c'est la bande d'Iron Man, Thor, Black Widow, Captain America, tout ça. Bah, je vous déconseille de tenter les comics de but en blanc. Moi, je l'ai fait et j'ai rien reconnu. J'étais un peu perdu. Pourtant, c'est là que se niche toute la richesse des héros et des héroïnes. Mais c'est un peu comme l'escalade. Il faut trouver la bonne première prise, puis la suivante. Bref, prendre son temps.
Elle est bien l'image de l'escalade. Vous avez justement cette première prise avec vous, Clément.
Oui, deux belles prises même, 300 pages chacune. Hop, faut les poser sur la table.
C'est lourd.
C'est très très lourd. Bref, c'est pas idéal pour les vacances, j'en conviens. Mieux vaut les poches pour ça. Ce sont deux livres issus d'une des meilleures collections pour se lancer dans les comics. C'est la collection Je suis de Marvel. J'en ai deux avec moi là. Donc Je suis Spider-Man, hop, il est là. Et Je suis Wolverine, hop là. On les échange. Ce sont ce qu'on appelle des anthologies, des compilations d'histoires centrées à chaque fois sur le même super-héros. Le nom de la collection est un clin d'œil qui parlera aux amateurs de films de super-héros. Souvenez-vous de la fin d'Iron Man, premier film qui a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers cinématographique Marvel, qui aujourd'hui compte plus de 20 films. C'était en 2008.
Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'Aéro. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs, la plupart publiques.
Lis seulement.
En vérité, je suis Iron Man.
Je suis Iron Man, déclaration publique, ça fait toujours classe de se déclarer comme ça quand on est un super-héros. Et derrière, ça a donné donc une idée à Marvel qui a lancé cette collection de 18 anthologies. Tous les super-héros de la maison des idées y passent, de Captain America aux X-Men, en passant par Black Panther et les Gardiens de la Galaxie. Tous qui ont été adaptés au cinéma avec plus ou moins d'inventivité et plus ou moins de réussite.
Vous pouvez essayer, je suis Clément Le Saffre. Est-ce que ça donne ?
Alors, il va falloir que je me trouve un nom. Je pense un petit pseudonyme de super-héros, exactement. Je vais réfléchir à ça.
Vous l'avez sûrement, non, votre pseudo de super-héros.
Il faut que je réfléchisse, il faut que je me trouve un super-héros.
Quand vous jouez,
déjà.
C'est sous quel pseudo, allez.
On peut appeler ça... Non, j'ai même pas de pseudo. Je suis très franc sur les réseaux. Moi, je mets toujours mon nom, je mets mon prénom quand même.
Ça vous
perdra. Super Clément, allez, faisons ça.
Alors, anthologie, ce sont donc ce que vous tenez en main, là, des recueils des meilleures histoires.
Alors, c'est à la fois c'est pas exactement les meilleures histoires. Ce sont de bonnes histoires, mais ce sont surtout des recueils qui sont chronologiques. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans cette collection, c'est qu'à chaque fois, on commence avec la toute première apparition du super-héros. Alors, par exemple, pour Spider-Man, c'était en 1962. C'était déjà plus de 20 ans après les premiers, puisque les premiers, c'est Superman, Batman, c'est la fin des années 30, début des années 40. Wolverine, lui, le deuxième que j'ai ramené, il est né en 74. Et à l'époque, c'était un méchant. Il était l'antagoniste de Hulk. Il s'affrontait dans un combat, on l'imagine, très testostéroné. Et puis, on avance de décennie en décennie avec de courts récits qui ont fait évoluer les héros vers la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une plongée dans l'histoire de ces figures qu'on peut aujourd'hui dire quasi mythologiques. Il y a quelque chose de fascinant, en plus, à relire les vieux comics d'origine, ceux de 62. Ils sont très durs à trouver de nos jours. C'est histoires qu'on ne trouve plus toutes seules, il faut trouver dans ces compilations. Et au-delà de l'évolution des personnages, on retrace avec eux l'évolution du genre de la bande dessinée en lui-même, depuis les cases colorées au décor très très simple. Des premières décennies, vous avez juste un aplat de couleurs, un personnage devant avec une bulle. Aujourd'hui, c'est devenu complètement différent, c'est numérisé, c'est très fouillé, très détaillé.
Il y a tellement d'époques différentes, est-ce que c'est pas compliqué du coup de s'y retrouver ?
Alors, on pourrait avoir peur de ça un petit peu, effectivement, mais ce sont des collections qui sont très bien faites. Car en plus des histoires en elles-mêmes, il y a une douzaine de chapitres par tome, ce qui est encore plus intéressant à mes yeux, ce sont les textes explicatifs qui s'intercalent entre chaque récit. Vous avez une, deux, voire trois ou quatre pages qui font le lien entre les différentes périodes, entre les différentes histoires. Vous en apprendrez énormément sur les super-héros, mais aussi sur les auteurs et les dessinateurs qui les ont façonnés, sur le fonctionnement même du monde des comics, puisque ça qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des personnages qui n'appartiennent pas à un auteur, ils appartiennent à la maison d'édition, et après ils se les repassent d'un auteur à un autre. C'est complètement différent de notre vision à nous de la BD en France. Bref, c'est fascinant, et cette collection Je suis, c'est vraiment une collection à recommander à ceux qui ont aimé les films Marvel, les jeunes qui aujourd'hui ont découvert, comme moi, les super-héros avec le cinéma, et qui veulent mettre un pied dans le monde des comics, comme peut-être leurs parents avant eux. Ce sont de beaux ouvrages, ça fait bien dans la bibliothèque en plus d'avoir ça.
Et c'est cher un peu, non ?
Alors c'est pas si cher que ça, puisque c'est des 300-350 pages. pages, on est sur 24 euros.
Ça va, ça les vaut, probablement.
Ça les vaut vraiment.
Il est Clément Le Saffre. Merci beaucoup, Clément. La semaine prochaine, j'espère.
La semaine prochaine, avec plaisir.
Catherine Pancol, c'est à vous de faire passer. Quels sont vos indispensables du moment? Tout est permis, livres, films, séries, recettes.
Alors, moi, j'ai deux romans. Il y en a un qui est islandais, Miss Islande, de Odur Ava Olafsdottir.
Il y a toujours beaucoup de trémas.
Oui, trémas et plein de noms.
Ça raconte quoi?
Elle a un univers formidable. Elle a vraiment un univers un peu de...
super-héros?
Pas de super-héros du tout, parce qu'elle est plutôt anti-héros, mais un peu de BD. On a l'impression qu'elle fait des bulles avec des personnages, des situations, et tout ça tient très bien en place. Elle fait un univers qui est crédible et qui est à la fois un peu onirique, et très réel, et avec beaucoup d'humour. Et puis sinon, un classique qui est Philip Roth, Nemesis, qui raconte l'histoire d'une épidémie de polio aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et
il y a des points communs avec aujourd'hui.
Il y a énormément de points communs, énormément. Mais c'est fou, on a l'impression qu'on est aujourd'hui, le comportement des gens, la progression de la maladie, comment ça commence, c'est troublant. Et surtout.
Et comment ça finit surtout?
Ah, mais je vais pas raconter la fin.
Non, si, on aimerait savoir comment, pourquoi.
La recherche d'un vaccin, enfin, c'est vu, le point. Et le point de vue est un moniteur sur un terrain de sport aux États-Unis dans une petite ville qui va se sentir coupable d'avoir transmis le virus et qui va tellement se sentir coupable
qui voilà. Va mal finir. Vous pensez, Catherine Pancol, que le confinement que la vie sous masque, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, va produire de beaux récits ou ça vous paraît très très périlleux pour la littérature en inspiration?
En inspiration, ouais. Je sais pas, c'est un peu tôt peut-être pour dire. Soit les gens vont s'évader dans des trucs complètement oniriques et fous, parce qu'on a besoin, on peut pas vivre toujours comme ça. Soit ils vont plonger dans un désespoir profond, mais je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on va sûrement avoir beaucoup de récits de confinement.
Et ça, on n'est pas sûr.
Ça, on n'est pas sûr d'avoir envie de les lire.
Il y a déjà eu quelques tentatives pendant le confinement, pas très probant, faut dire.
Il y a même eu des super-héros. Marvel a prévu quelques histoires sur la lutte contre l'épidémie, notamment pour mettre en valeur le rôle des soignants.
Ah oui, ça d'accord. Voilà. Ça d'accord, là on est partant. Est-ce que ça vous manque, Catherine, de ne pas pouvoir voyager au hasard, de ne pas pouvoir aller à New York?
Bah oui, ça c'est sûr, ça c'est évident. Ouais.
Et vous pensez que ça met du temps, tout ça?
Je ne pense rien du tout, parce que je suis ni médecin, ni épidémiologiste.
Oui, en tout cas, vous préparez, vous privez de New York pendant un moment et vous privez des États-Unis. C'est dommage, parce qu'on peut le révéler, vous êtes vraiment très très amoureuse de Donald Trump.
Je l'avais interviewé une fois pour match, mais par téléphone, il n'avait pas le temps. Ah. Et là, il m'avait dit un truc qui m'avait fascinée. Il m'avait dit que pour être un bon père, ce n'était pas la peine de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Que 3 heures par semaine intensive, ça suffisait.
Heureusement, remarquez que vous n'aviez pas vu de visu, peut-être.
Oui, je serais partie en courant, peut-être.
Si vous aviez le choix de prendre demain l'avion en toute sécurité, en toute impunité, vous iriez où?
J'irais à New York.
Votre destination?
Oui, j'ai quand même habité longtemps. C'est une ville où je suis plein de repères. À Paris et New York, c'est vraiment mes deux villes. Quoi. J'arrive à New York, je suis comme à Paris, moi.
À ce point-là?
Ah oui. Ça me manque, là.
Et vous suivrez, évidemment, l'élection américaine?
La nouvelle vice-présidente, elle a l'air...
Kamala Harris?
Oui, elle a l'air vraiment costaud, intéressante. J'adore son rire aux Américains.
Et bon, on aimerait presque qu'une fois élu, Joe Biden...
Il meurt vite.
Catherine Pancol sortira Eugène, roman graphique, en novembre.
Eugène et moi.
Ah, ça a changé de titre, d'accord.
Oui, Eugène et moi.
Eugène et moi, ça s'appelle. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, Eugène et moi. D'accord. Faut suivre, roman graphique, en tout cas, en novembre chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média. Peu de patience pour vos fans. Allez, c'est l'heure de première page. Bientôt en librairie, le 20 août, le livre de Kieran Millwood Hargrave, Les Graciers, qui sortira chez Robert Laffont. En voici le début. Vardø, comté de Finnmark, nord-est de la Norvège, 1617. La veille, ma reine avait rêvé qu'une baleine s'était échouée sur les rochers en face de chez elle. Elle descendait la falaise, marchait jusqu'à elle, et œil contre œil,
enroulait ses bras autour de cette grande masse nauséabonde. Elle ne pouvait rien faire d'autre pour elle. Les hommes accouraient sur les rochers noirs, sombre procession d'insectes vifs munis de lames et de faux luisantes. La baleine n'était pas encore morte que la chaîne humaine avait déjà commencé et la découpe avec elle. La baleine se débattant et eux, visage fermé, déployés sur son corps comme un filet sur un banc de poisson. Les bras de marraine étaient raides et tendus, car elle s'accrochait ferme en les ouvrant tout grand. Depuis si longtemps qu'elle n'aurait su dire si son étreinte était perçue comme un réconfort ou une menace, mais elle s'en moquait désormais, immobile, œil contre œil, sans ciller. La baleine finissait par s'immobiliser, sa respiration faiblissante à mesure qu'il hachait, sciait. Marraine avait senti l'odeur de la graisse brûlant dans les lampes, avant même que le corps ne se fige, bien avant que le brillant de l'œil collé contre le sien ne devienne terne. Elle s'enfonçait au milieu des rochers, jusqu'au fond de la mer. Le ciel au-dessus d'elle était noir, un ciel sans... Eh ouais, sans quoi, on ne sait pas. Enfin si, vous le saurez si vous lisez ce livre qui sortira le 20 août chez Robert Laffont, Les Graciers, un livre de Kieran Millwood Hargrave. C'est ça le tapis, là, t'as pas mieux ? Franchement, Valentine, je veux pas finir là-dessus, moi. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, 9h. Nous serons avec le directeur du festival d'Angoulême, Dominique Besnéard, et la réalisatrice Maïmouna Doucouré. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Nous, on se voit demain, je ne vous embrasse pas. À demain.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clarke.